Écoute. Écoute.
Bonjour, pour cette dernière émission de l'année, mon invité est Bertrand Badi, professeur des universités à Sciences Po, auteur prolifique qui a produit de nombreux livres sur l'ordre international. Citons le dernier qui avait été d'ailleurs honoré au prix de géopolitique de Nantes, le temps des humiliés. Bertrand Badi, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment décrivirez-vous aujourd'hui l'ordre international ? Est-ce que vous pensez que l'on rentre dans un monde multipolaire où le poids des États-Unis est-il toujours le plus fort et que nous avons encore les traces d'un monde unipolaire ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est acharné, après 1989-91, à parler de système post-bipolaire. C'est-à-dire qu'on désignait notre système international par ce qu'il y avait avant et non par ce qu'il était. Ce qui était une façon, je dirais, de dénier le réel, c'est-à-dire de ne pas faire l'effort de comprendre dans quel système international, pourtant franchement nouveau, nous nous trouvions. Je pense qu'il y avait une dose de conservatisme, comme une volonté de ne pas échapper au grand chapitre de la grammaire bipolaire des relations internationales. Alors qu'on a après slalomé entre le monde unipolaire, qui, c'est vrai, paraissait s'imposer au début des années 90, c'était le temps de tempête du désert, c'était le temps de la conférence de Madrid. Puis après, on a parlé d'un monde multipolaire, ça c'était surtout les puissances moyennes, c'est-à-dire en même temps la France de Chirac, et les puissances émergentes qui voulaient une place au soleil, une petite place, c'est-à-dire exister. Moi, j'ai toujours plaidé, et aujourd'hui, plus que jamais, pour l'idée d'un monde apolaire. C'est-à-dire que finalement, la polarisation, ça a été un moment très court de l'histoire des relations internationales. Elle n'a jamais existé réellement avant la Seconde Guerre mondiale. Le monde de l'entre-deux-guerres n'était pas polarisé, celui du 19e siècle il était concurrentiel, il n'était pas polarisé. Il s'est polarisé par accident avec ce qu'on appelle la guerre froide, la coexistence pacifique et la détente, et puis il est à nouveau à l'état, je voudrais dire, normal, c'est-à-dire sans pôle. Sans pôle, et on peut aller plus loin aujourd'hui en réponse à ta question, c'est-à-dire sans pôle et probablement sans hégémonie. On pourrait imaginer un monde polarisé, multipolaire, et du coup, l'idée de multipolarité déboucherait sur celle d'absence d'hégémonie. Mais en réalité, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire ce n'est pas un équilibre entre États qui met fin à l'hégémonie, c'est l'hégémonie qui met fin à elle-même, c'est-à-dire l'hégémonie qui est en distorsion avec la mondialisation, avec les relations d'interdépendance de plus en plus sophistiquées entre les États, les économies, les sociétés, et surtout l'hégémonie qui est congédiée par la revanche du faible.
C'est-à-dire que, par exemple, là, les États-Unis ne sont plus en situation d'hégémonie et la Chine, puissance montante, ne va pas la remplacer comme puissance hégémonique.
C'est ça. C'est-à-dire que j'ai toujours refusé, moi, de parler de déclin américain, ce qui n'a pas de sens eu égard à un certain nombre de critères qui placent toujours les États-Unis très haut en matière universitaire, en matière de technologie, même d'un certain point de vue, si c'est moins vrai maintenant, sur le plan économique. Ce qu'il y a, c'est que c'est la puissance qui n'arrive plus à composer avec le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que tout se passe comme si la Chine l'avait compris très tôt. Car la Chine cherche à être ou à demeurer une puissance régionale. C'est-à-dire que l'idée de puissance régionale fait encore sens. Mais la Chine ne cherche pas à être une puissance mondiale. Et elle ne cherche pas à être une puissance mondiale, d'abord parce que culturellement, historiquement, la Chine n'a jamais été messianique, n'a jamais cherché à siniser le monde, et elle ne cherche pas à être une puissance mondiale parce qu'elle a compris que la puissance ne rapporte plus. Ou plus exactement, l'exercice de la puissance ne rapporte plus, que ce type d'exercice est très coûteux. Économiquement, la guerre d'Irak de 2003 a été ruineuse pour les États-Unis. La puissance crée plus d'inimitié que d'amitié. La notion d'alliance qui venait du temps de la guerre froide, renforcer la puissance de la superpuissance se défait. C'est-à-dire que on retrouve les simakites de Thucydide, sans vouloir entrer dans le précieux, mais on est beaucoup plus au temps, notamment là où il y a les conflits, des coalitions de circonstances, des amitiés de conjoncture, que des alliances profondes et institutionnalisées. Eh bien, quand il n'y a plus véritablement d'hégémonie, qu'il n'y a plus d'alliance structurée, qu'il n'y a plus de logique frontale, c'est-à-dire de deux superpuissances de niveau égal qui s'affrontent, il y a une place pour le petit. Et regardons l'agenda international tel qu'il a été fait depuis 2000. Qui a fait l'agenda international dans le monde depuis 2000 ? Probablement plus les entrepreneurs de violence que les puissances. Qui a plus pesé depuis l'an 2000 sur notre planète ? Probablement davantage Ben Laden et Baghdadi que les présidents des États-Unis qui ont été tous dans des stratégies réactives. Et qu'est-ce qui est à l'origine des conflits aujourd'hui ? Beaucoup plus la faiblesse que la puissance. Autrefois, la guerre, c'était une compétition de puissance. Aujourd'hui, la guerre est devenue une compétition de faiblesse. Faiblesse des États qui s'écroulent, faiblesse des nations qui se déchirent, faiblesse du lien social dans des sociétés civiles peu structurées qui se fragmentent et se retribalisent. Tout ça est constitutif de guerre, alors que la puissance est dans le rôle, sans parodier personne, je dirais, du spectateur engagé, du spectateur, parce que ce n'est plus la puissance qui règle le jeu, mais en même temps, la puissance ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe ailleurs, cherche à intervenir, et ses interventions n'aboutissent pas, donc c'est une double peine.
Alors oui, effectivement, il y a des échecs de toutes les interventions militaires récentes, américaines, Afghanistan, Irak. Néanmoins, il y a quand même une grande partie de l'agenda international qui est encore dictée par les États-Unis ou par les Américains en général. Vous pensez vraiment qu'ils n'ont plus de prise sur les événements ?
Moi, ce qui me frappe dans la conjoncture actuelle, celle de la présidence de Donald Trump, c'est le formidable isolement des États-Unis sur la scène mondiale. C'est-à-dire que depuis que les États-Unis sont entrés dans le monde, ils sont entrés assez tard, lorsque la doctrine Monroe a été dépassée, finalement avec la Première Guerre mondiale, jamais les États-Unis se sont trouvés dans une situation d'isolement qui est la leur actuellement. Et ça aussi, c'est un signe. Ils sont sortis de l'UNESCO, personne ne les a suivis. Ils sont sortis ou annoncé leur sortie de la COP21, personne ne les a suivis. Ils sont sortis de la Convention internationale sur les réfugiés, personne ne les a suivis. Ils ont reconnu Jérusalem, capitale d'Israël, personne, en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, ne les a suivis. Personne n'a donné le moindre signe de réfléchir au fait de savoir s'ils allaient suivre ou pas, sauf peut-être le président de la République tchèque. Et il est peu probable qu'ils le suivent. Effectivement, c'est quand même une indication. C'est une indication d'une pente, parce que même du temps de George W. Bush, qui n'était pas spécialement populaire, qui a provoqué une sérieuse crise dans le monde occidental, comme on le sait, il faut se rappeler, France-Allemagne face aux États-Unis et leurs alliés, justement, encore sous la guerre d'Irak, pendant la guerre d'Irak, les États-Unis avaient de nombreux alliés. C'était une coalition, comme on disait en 2003, qui intervenait en Irak. Il y avait la Grande-Bretagne, il y avait l'Espagne, il y avait l'Italie, il y avait le Portugal, il y avait la Pologne, il y avait la Hongrie, il y avait plusieurs pays d'Europe centrale. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation d'isolement. C'est un signe. Alors, c'est un signe, bien entendu, du radicalisme de l'actuel président américain, mais c'est aussi un signe que la puissance américaine n'entraîne plus. Alors, elle entraîne certainement par son soft power, sur le plan consumériste, sur le plan économique. Même là, la puissance économique se trouve un peu érodée, elle n'entraîne plus sur le plan politique. Ça, c'est quand même le grand fait.
Et vous pensez que c'est lié à Trump ou aux États-Unis ? C'est-à-dire qu'en 2020, un nouveau président, cette fois-ci démocrate, est élu, quelqu'un plutôt du style Clinton ou Obama. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait réparer tout cela ou que c'est une évolution structurelle et historique sur laquelle il est trop tard pour revenir ?
Moi, j'ai tendance à dire les deux. Mais les deux facteurs ne jouent pas au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène structurel qui est encore une fois non pas le déclin américain, une nouvelle fois je récuse cette idée, mais qui est le déclin de la puissance. La puissance est adaptée à un monde westphalien, à un monde de compétition interétatique, à un monde où les États sont en situation de rivalité presque structurelle. Ça, c'est terminé, et ceci vient en quelque sorte diminuer l'effet d'entraînement des États-Unis comme super, ou d'aucuns disaient même hyperpuissance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Barack Obama a incontestablement saisi cette mutation. Il a saisi cette mutation en rappelant, en affirmant que le hard power américain ne fonctionnait plus, et donc a davantage choisi la voie libérale, néolibérale, disons, c'est-à-dire le soft power, c'est-à-dire l'économie, c'est-à-dire le monde ouvert, hein, c'est-à-dire le libre-échangisme, un modèle assez classique américain mais régénéré, qui a été critiqué, mal compris, mais n'a pas du tout conduit, du temps d'Obama, à un isolement des États-Unis. Donald Trump a fait un choix tout à fait différent, puisque la carte de Donald Trump, c'est de dire, face à cette mondialisation, nous ne devons plus suivre celle-ci, mais nous la subordonner. C'est-à-dire, America first, ça veut dire, lorsque la mondialisation est utile pour la nation américaine, on la prend, quand elle est inutile, on la prend pas. Instrumentalisation de la mondialisation, qui est un pari extraordinairement dangereux, je le crois à contre-courant de, j'oserais dire, du sens de l'histoire, mais surtout qui conduit effectivement à une réaffirmation de la nation américaine, et une réaffirmation de la nation américaine à contre-courant de ce qu'est la mondialisation, c'est le risque de l'isolement.
Autre sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, outre l'ordre mondial, c'est cette notion de globalisation, d'émergence et le rôle de l'État. Vous avez fait un livre très remarqué au début des années 90, « La fin des frontières », où vous disiez que l'État n'était plus l'acteur incontournable des relations internationales et que les flux, les réseaux allaient prendre le devant. Où en est votre réflexion sur cette problématique aujourd'hui ?
Entendons-nous bien, d'abord, je n'ai jamais parlé, je ne parlerai jamais de disparition de l'État. Simplement, le terme qui me paraît très exact, ce serait recontextualisation de l'État. Il ne faut jamais oublier que l'État n'est pas un phénomène immanent à la nature humaine qui aurait toujours accompagné le développement humain et le développement des sociétés. L'État, c'était un moment de notre histoire lié en même temps à la transformation des circuits marchands, à la naissance de ce capitalisme marchand qui a marqué la Renaissance. C'était aussi un temps où l'Europe était de facto seule au monde. Il y avait d'autres mondes, mais justement, c'était des mondes extérieurs. La mondialisation a apporté trois bouleversements majeurs dans l'histoire politique mondiale. Premier bouleversement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, l'interdépendance généralisée. L'interdépendance généralisée, ça veut dire tout le monde dépend de tout le monde, ça veut dire que le faible continue bien sûr à dépendre du fort, mais que le fort dépend de plus en plus du faible, ce qui est éminemment perturbateur, mais surtout qui est attentatoire au principe de souveraineté. Alors le grand problème, c'est que la souveraineté est un concept qui a commencé à être forgé au XIVe siècle en France par Philippe le Bel. La France de Philippe le Bel et la France d'Emmanuel Macron, c'est pas la même, hein, c'est évident. Et donc, ce concept est complètement à revoir, mais on a l'impression que si on touche au concept de souveraineté, tout s'écroule. Donc il y a un conservatisme aujourd'hui qui fait que nos institutions politiques sont gelées, mais en complète contradiction avec ce monde d'interdépendance. La deuxième transformation, c'est la révolution des communications. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, qu'on n'a pas assez étudié dans ses impacts politiques, parce que la communication généralisée a pour effet d'abolir la distance. Or, l'État est intimement lié à la territorialité et à la distance. Le fait qu'on soit aujourd'hui dans le virtuel ruine ce qui fait le fondement même de l'État, qui lui est dans le réel, dans le territoire. La capacité des frontières est un phénomène remarquable à étudier, puisqu'elle est en train de se défaire et à aboutir notamment à quelque chose qui est au centre de notre problématique politique contemporaine, qui est la mondialisation des imaginaires. Avec les progrès de la communication, l'imaginaire est mondialisé. Le pauvre, le faible, autrefois, n'avait même pas conscience qu'il pouvait exister des riches et des puissants. Et donc, il mourait dans la résignation. Aujourd'hui, le pauvre et le faible voient le riche et le puissant, et donc son imaginaire inclut cette image du riche et du puissant et forge ainsi sa mobilisation sous des formes.
D'où votre thèse sur le temps des humiliés, l'humiliation comme moteur de l'histoire et moteur également de la plupart des troubles qui traversent le monde aujourd'hui.
L'humiliation devient de ce fait, et du fait justement de cette mondialisation des imaginaires, un paramètre essentiel de la vie internationale. Et la vie internationale, du coup, c'est la vie des comportements sociaux mondialisés, beaucoup plus que la vie des États. C'est donc le deuxième ébranlement de l'État. Le troisième, c'est que, c'est fini, l'Europe n'est plus seule au monde. N'est plus que le promontoire de l'Eurasie, elle-même une composante de l'espace mondial. Et ça, c'est un problème très grave, parce que l'Europe n'arrive pas à comprendre qu'elle n'est plus l'alpha et l'oméga de l'espace mondial.
Le monde occidental en général, plus encore que l'Europe.
Le monde occidental, alors, ces notions sont difficiles. L'Europe, au moins, c'est une entité géographique, on sait ce qu'on dit. L'Occident, moi, j'ai jamais compris ce que c'était.
Hein. L'OTAN. Alors,
l'OTAN, oui, d'accord. Mais l'OTAN recouvre des espaces que, naguère, on ne considérait pas comme des espaces occidentaux, donc tout ça est extraordinairement mouvant. Mais moi, dans mon esprit, l'Europe, c'est autant la Russie. Et je dirais, d'un certain point de vue, l'Europe, c'est autant les États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont devenus une puissance mondiale en devenant une puissance européenne. Il ne faut jamais l'oublier. Les États-Unis, en tant que puissance américaine, c'est les États-Unis de Monroe, c'est les États-Unis hors du système international. Lorsque Wilson a fait le choix, forcé ou pas, d'entrer dans le monde, il l'a fait en devenant une puissance européenne. Et la marque de l'OTAN, c'est quand même l'européanisation des États-Unis. C'est-à-dire, avec la Libye canadienne en plus, les États-Unis...
Européanisation des États-Unis et en même temps, disons, américanisation des pays européens, quand même.
C'est... Absolument. Mais c'est quand même les États-Unis qui ont franchi l'Atlantique, ce qui n'est pas d'ailleurs purement anecdotique ni formel, parce que les États-Unis sont entrés dans le monde en considérant et en croyant que leur territoire restait sanctuarisé parce que le territoire restait hors du monde. Les États-Unis étaient dans le monde, leur territoire hors du monde, c'était la position la plus favorable, et depuis le 11 septembre, on sait que c'est plus vrai.
Ou depuis les missiles interbalistiques également.
C'est... Bien sûr. Ouais. Bien sûr.
Votre avant-dernier ouvrage, c'était justement « Nous ne sommes plus seuls au monde », qui portait sur le fait la perte du monopole européen et occidental sur la puissance. Et dedans, vous aviez consacré un chapitre sur la politique extérieure française. C'était un livre qui, de mémoire, a été publié en 2016, donc avant l'élection présidentielle actuelle. Et vous faisiez le constat de la fin de ce qu'on appelle le gaulo-mitterrandisme et d'une atlanticisation, d'un tournant atlantique de la politique extérieure française. Est-ce que vous continuez à penser cela ? Et première question, et deuxième question, comment, à cette aune, jugez-vous l'action extérieure d'Emmanuel Macron ?
Alors, tout ça se date de manière assez précise. C'est-à-dire qu'il y a eu une interruption du gaulo-mitterrandisme exactement en juin 2003. C'est-à-dire, on aurait tendance à dire juste après la victoire de Chirac contre les États-Unis. C'est un grand paradoxe, mais un paradoxe qui s'étudie. Et de 2003 à 2017, nous étions dans un système néoconservateur qui a été, donc plus que atlantiste, néoconservateur, qui a paradoxalement été porté par trois présidents très différents, un néo-gaulliste, un néolibéral et un social-démocrate. Tous les trois qui ont joué très clairement la carte du néoconservatisme avec un décalage surprenant. C'est-à-dire que le néoconservatisme est venu éclore en France au moment où il se mourait aux États-Unis, ce qui quand même est très paradoxal.
Et comment expliquer ce... Parce que souvent, certains datent, et là je vous rejoins, par erreur datent le tournant en 2007 avec l'élection de Nicolas Sarkozy. Or, en fait, nous pensons l'un et l'autre que ce tournant a été pris avant, et par Jacques Chirac lui-même qui avait incarné. Comment expliquez-vous ce tournant de Jacques Chirac, que vous datez de juin 2003, qui, au moment où il pourrait triompher, rentre dans le rang ?
Alors moi, je fais le pari qu'il y aura beaucoup de thèses d'histoire dans le siècle qui vient pour essayer d'interpréter cette coupure mystérieuse de 2003 qui n'est pas si facile à analyser. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses qui courent. Il y a un renouvellement générationnel, par exemple, dans le corps diplomatique français et dans le corps politique. Il y a une autre interprétation qui court, qui est celle de la crainte de Chirac de voir que son succès face à George W. Bush ne lui coûte trop cher. Moi, je pense qu'il y a une troisième interprétation sur laquelle je travaille depuis un certain temps, qui est de dire que les trois atouts de la France, dans les années début des années 2000, étaient remis en cause. Finalement, la France s'appuyait sur son précaré africain et au-delà, je dirais, il s'effritait. Et il y a eu là une perte qui ne se limite pas seulement à la perte de la France-Afrique ou à la disparition, ou en tous les cas aux difficultés rencontrées par la France-Afrique, mais enfin, qui est bien symbolisée de cette façon. Deuxième élément, il y a eu l'élargissement de l'Europe. L'élargissement de l'Europe, c'est la fin du leadership diplomatique de la France sur l'Europe. Le grand moment de l'élargissement, c'est 2004. Il était commencé un peu avant. Rappelez-vous la fameuse déclaration des 10 qui était...
En
faveur de la guerre d'Irak. Alors qu'ils étaient au seuil d'entrée dans l'Union européenne et qui avait rendu Jacques Chirac furieux, Jacques Chirac a vu effectivement cette capacité très forte de leadership diplomatique de la France sur l'Union européenne se ruiner à ce moment-là. L'Europe n'était plus un levier, l'Afrique n'était plus un levier, l'Europe n'était plus un levier. Troisième élément, le multilatéralisme n'est plus non plus un levier. Nous sommes dans une période où John Bolton et Bush lui-même marginalisaient le système onusien et le multilatéralisme, et la France perdait ainsi ce multiplicateur de puissance qui était son rôle actif au Conseil de sécurité. Je pense que ces trois éléments ont joué un rôle important, mais le phénomène est trop important pour être lié à un seul facteur. C'est probablement toute une transformation générationnelle de la Ve République. C'est aussi le début des années 2000, c'est la fin de la génération vraiment formée sous De Gaulle et sous Mitterrand. C'est une nouvelle génération qui arrive. On le voit à travers le personnel diplomatique français. Ça, c'est vrai. Et du coup, ça s'est très vite routinisé. Alors, Macron, là-dedans, Emmanuel Macron, c'est intéressant. Je crois que c'est trop tôt pour répondre à cette question. Je vais vous décevoir. Je n'ai pas de réponse toute faite. D'ailleurs, je n'ai pas d'idée. Juste, j'ai des remarques. Première remarque, Emmanuel Macron est le premier président de la Ve République à avoir été élu sur une approbation manifeste et explicite de la mondialisation et de l'intégration européenne. Les autres étaient contre ou étaient modérés, subtils, équilibrés. Là, on est franchement dans un modèle, dans un programme, dans une vision politique mondialisée. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, dont on peut penser que c'est une première forme de distanciation par rapport à la séquence néoconservatrice. D'autant que cette rupture est accompagnée de signes qui étaient intéressants à observer. Les propos contre le colonialisme, même s'ils ont été modérés par la suite, la critique d'interventions militaires françaises trop nombreuses et qu'il fallait probablement redéfinir de manière plus précise et plus limitée. Tout ceci m'incitait à penser qu'on allait dans le sens de la rupture, avec probablement aussi un jeu interactif avec les autres candidats. Les autres candidats, c'était un nationaliste de droite et un nationaliste de gauche, Front National, France Insoumise, donc qui déporte vers une vision mondialiste, et puis une coalition finalement issue des trois derniers mandats présidentiels qui avait une coloration atlantiste trop forte, qui avait tendance à déporter Emmanuel Macron vers autre chose, et en tous les cas, vers un plus d'Europe. Quand on est très militant de la cause européenne, on l'est un peu moins de la cause néoconservatrice. Mmh. Donc tout ça, c'est un premier élément. Deuxième remarque, les choses se sont plutôt mal passées en juin-juillet. Visite de Trump, excessive, visite assez étonnante de Netanyahou, au moment où on commémorait un événement franco-français et où Emmanuel Macron lance ce fameux son cher Bibi et cette assimilation de l'antisionisme à l'antisémitisme. Donc on avait l'impression que ça repartait à nouveau vers des schémas immédiatement antérieurs. Et puis il y avait un troisième moment qui a été le grand discours de Macron devant l'Assemblée générale des Nations Unies du 19 septembre, le même jour que Trump, pour dire exactement le contraire de Trump, et sur une base franchement multilatéraliste. Ça, c'était nouveau par rapport aux trois prédécesseurs. Alors, entre ces trois séquences qui s'entrechoquent, quelle est celle qui va triompher? J'en sais rien. On sent un président hésitant, on sent aussi quelqu'un qui a envie de concilier un peu tout, ce qui est dangereux, en politique étrangère en particulier. Attendons.
Wait and see. Merci Bertrand Badie pour ce large tour d'horizon.